les eaux fleurissent.
Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 16 et 17 mai au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio. Les éclats de lire. Pour mieux connaître la littérature jeunesse et ses acteurs. Quel enfant étiez-vous ?
Inventive, rebelle, plus libre dans sa tête que dans son corps. En bref, j'étais meilleur un livre à la main ou en maths qu'en gym.
Quel livre pourriez-vous relire 100 fois ?
Le Grand Maulne, La Mare au Diable, 100 ans de solitude.
Quel livre vous a bouleversé ?
La Petite Princesse de Frances Hodgson Burnett.
Quel livre auriez-vous voulu écrire vous-même ?
Fifi Brin d'Acier.
Parmi les autres êtres vivants, qu'auriez-vous aimé être ?
Un chat, une panthère, un oiseau.
Je suis...
Cécile Roumiguière.
Et bonjour Cécile Roumiguière, comment vas-tu ?
Bonjour, écoutez, ça va très très bien.
Superbe. Alors aujourd'hui avec toi, on va parler des sorcières. On est en octobre, Halloween approche et c'est un thème qui te tient à cœur, je crois. Tu vas employer ces personnages de sorcières dans plusieurs de tes albums ou de tes livres. Déjà, pour toi, qui sont les sorcières ? À quoi servent-elles ? Est-ce qu'elles ont un but, une fonction ? Voilà, donne-nous un peu ton rapport aux sorcières, s'il te plaît.
Alors déjà l'histoire commence, faut pas faire trop long j'imagine, mais j'avais une vingtaine d'années, je travaillais dans les sons et lumières, dans les spectacles, et j'ai beaucoup travaillé sur un bouquin d'Emmanuel Leroy de la Lurie et sur d'autres choses, sur Montaillou, Village Occitan, des choses où on parlait des femmes, des bonnes femmes, qu'on appelait les bonnes femmes au Moyen-Âge, qui étaient des soignantes, des médecines, des gens qui dans les villages faisaient à la fois office de soignantes et de psy presque, et qui étaient vraiment indispensables à la vie du village à une époque où il n'y avait pas de médecin. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait la sorcière. C'est pas du tout par le biais de la femme à nez crochu et à chapeau pointu. Ça, c'est pour moi, c'était très anecdotique. Et en plus, quand j'ai compris d'où ça venait, j'ai trouvé ça franchement malsain. Donc, la sorcière, c'est la femme dans ce qu'elle peut apporter de un petit peu spécifique à l'humanité, je dirais. Et c'est aussi le côté maltraité, le côté proscrit, le côté pourchassé, enfin le côté mis de côté. Et qui est très dont il faut parler aujourd'hui puisque c'est quand même un sujet primordial. Ça fait des siècles et des siècles qu'on est en patriarcat. Peut-être qu'on va peut-être un peu ouvrir, non pas vers un matriarcat spécifique, mais vers quelque chose d'un peu plus mixte, on va dire. Ce serait quand même pas mal. Et c'est vrai que c'est pour moi c'est important. Donc il y a les sorcières, l'album évidemment dans l'Encyclopédie du Merveilleux. Il y a aussi le roman Fille de la Walilu qui est à l'école des loisirs où je tourne autour du personnage de la sorcière. Alors là, la sorcière sombre et la sorcière lumineuse, solaire. Voilà, donc avec les deux faces aussi du personnage.
Donc la sorcière, elle se retrouve dans ton œuvre. Mais pour revenir sur les sorcières en général, et notamment sur ce livre Les sorcières, paru dans la collection L'Encyclopédie du Merveilleux, on en reviendra plus précisément sur ce sujet plus tard. Mais il y a pas mal de thèmes qu'on va aborder déjà dans cette première partie d'émission. Les sorcières, au fil du temps, après des années et des années de répercussions, de sorcières torturées, mises au bûcher, persécutées, etc. Elles ont plutôt la côte aujourd'hui, ça a changé.
Oui, alors effectivement, elles sont revenues bien à la mode dans les années 60-70, avec des mouvements de libération de la femme qui se sont servis de la sorcière, enfin qui ont pris à cœur l'image de la sorcière pour en faire une image féministe. Aujourd'hui, donc 21e siècle, c'est à travers notamment le livre de Mona Chollet, sur les sorcières et femmes puissantes, que ça revient sur le devant de la scène, et aussi bien sûr à tous ces mouvements MeToo, de maltraitance à la femme. Enfin, pour moi, il y a eu tellement il y a eu presque c'est un vrai massacre et un génocide, parce que le terme n'est pas approprié, de la femme libre, de la sorcière, au XVIe, XVIIe siècle. Et il n'y a pas, enfin, s'il y a un monument, pardon, en Europe, j'allais dire, il n'y a pas un seul monument pour commémorer ces femmes qui ont été indignement mises à mort. Il y en a un dans les pays du Nord, je ne sais plus si c'est en Norvège ou je crois que c'est en Suède. Il y a un monument qui a été créé par Louise Bourgeois, donc un architecte. Donc voilà. Mais j'aimerais bien militer pour qu'il y en ait plus, qu'il y en ait en France, par exemple. Je sais pas, on remplacerait quelques monuments moches et pas très appropriés par des beaux monuments faits par des femmes, créés par des femmes et pour les femmes qui ont été pourchassées. Moi, ça me plairait bien.
Ouais. Donc la sorcière reste encore à être réhabilitée et tu
Oui.
contribues par ton œuvre, j'imagine.
Oh bah, toute petite,
À ta
avec mes
mesure.
tout petits moyens. Oui, faut quand même dire que c'est à la mode. Il y a effectivement eu Mona Chollet, il est à des crimes maintenant qui remettent les sorcières à la mode. Mais dans le monde, il y a toujours des femmes qui sont soit lapidées, soit vraiment maltraitées, accusées
Aujourd'hui
d'être
encore, des
sorcières.
femmes sont...
Oui,
Ouais.
dans certains. Alors, pas en France,
Et
et
en
pas en
étant
Europe.
accusées de sorcellerie.
Oui, dès qu'elle dérange, par exemple, il y a certains pays, notamment certains villages en Inde ou en Afrique, où dès qu'une femme est veuve et qu'elle a des terres qui lui reviennent de son mari, on s'arrange peut-être autour la famille, les oncles, les frères du mari défunt, pour si on la chasser en fait, et s'approprier ses terres. Ça existe encore. Ouais.
Ouais, il semble que ça, en fait, toutes ces femmes, enfin pas toutes, mais beaucoup de femmes qui étaient accusées de sorcellerie, en fait, c'était juste des querelles de voisinage.
Bien sûr, bien sûr. Ça sert à ces boucs émissaires, et souvent parce qu'il se trouve que ces bonnes femmes, ces guérisseuses, étaient souvent veuves ou femmes seules, donc sans protection. Je mets plein de guillemets autour de protection masculine autour d'elles, donc des proies plus faciles. À une époque où la force prime sur le droit. Et c'était facile. Et la chasse aux sorcières, elle est quand même née, non pas au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, encore une fois, la femme, il y en avait quelques-unes qui étaient sûrement maltraitées, parce qu'il y avait trois vaches qui étaient mortes de façon bizarre dans le coin, et qu'on avait envie de se venger de quelqu'un. Mais c'est venu plus avec, en parallèle aux guerres de religion, il y avait pas mal de bandes de pillards dans les coins, la fin de la guerre de Cent Ans, et entre la fin de la guerre de Cent Ans et les guerres de religion, où on a eu besoin d'un bouc émissaire. Donc voilà, si on mangeait pas à sa faim, s'il y avait des combats partout, s'il y avait des guerres partout, c'était la faute de ces femmes.
Ouais,
Facile.
c'était très facile.
Ouais, ça l'est toujours aujourd'hui, hein. Peut-être pas les femmes, mais on trouve toujours des boucs émissaires autour de soi, au lieu de chercher à comprendre le fond du problème.
Ça reste
On masque assez
un sujet et
facilement.
un problème intemporel.
Bien sûr.
Et alors, pourquoi, on va revenir à des choses un petit peu plus gaies, mais pourquoi utiliser ce personnage de la sorcière en littérature jeunesse? Qu'est-ce qu'il t'apporte à toi? Comment tu vas pouvoir t'en servir?
Alors, c'est un personnage facile parce qu'il a de multiples facettes. La sorcière, on peut en faire une femme solaire, magnifique et séductrice, une vieille femme sombre qui voit l'avenir. Enfin, y a vraiment, la palette est immense et riche. Donc ça, c'est assez chouette. Elle est symboliquement tout aussi riche. Elle convient tellement bien alors, j'aime pas parler de messages que je veux faire passer, mais aux univers que j'aime partager avec les lecteurs et les lectrices, que pour moi, c'est une évidence. Et c'est vrai que sans le vouloir, si je remonte un peu dans mes livres, maintenant que ça fait 20 ans que j'écris, dans mon premier livre, L'école du désert, il n'est pas question de sorcière. Par contre, la petite fille Noura qui veut aller à l'école et qu'on veut empêcher d'aller à l'école, déjà, elle trouve conseil auprès de la vieille femme du village. Et c'est une vieille femme qui est un peu sourde, qui est un peu atypique, qui est seule, voilà, c'est pas encore une sorcière, mais presque. Et si on remonte tout le fil, il y a la goule dans Pavot de la Courneuve, il y a plein de figures de femmes vraiment, vraiment qu'on pourrait dire sorcières. Donc elle m'accompagne depuis toujours. Voilà. Je travaille mon côté sorcière aussi. Hein, j'ai la chance de pouvoir vivre parfois dans une forêt. Je parle aux arbres, tout
ça. Parce que la sorcière est très connectée à la nature, en fait.
Ah oui, oui. Alors ça aussi, c'est effectivement par rapport à aujourd'hui en littérature jeunesse, un des thèmes qui est pour moi essentiel. Bien sûr, il y a l'image de la femme et de dans quel monde vit-on. Et l'image de la nature à préserver, c'est notre habitat. Si on en fait n'importe quoi comme on continue à le faire, ça va pas. Donc oui, c'est essentiel. C'est un des traits essentiels de la femme. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que pour moi c'est une évidence. Mais, c'est la sorcière, c'est la nature. C'est le lien de l'humain à la nature.
On va écouter cette chanson de Clara Isé que tu as choisie pour illustrer musicalement cette émission et qui parle de portraits de femmes assez souveraines.
Merci. Toi tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Toi tu voulais être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié, mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter un air que la nuit, en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Depuis toujours, tu sens que c'est un décorum. Toi, tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans les nuits s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson de Clara Isé?
Bah déjà, Clara Isé, c'est une très très belle découverte, assez récente, je ne sais pas, il y a un an ou deux.
Ouais, pareil.
C'est une chanteuse qui a une vraie voix, une vraie parole intense, forte, et voilà, elle a des choses à dire, et elle les dit magnifiquement bien. Et puis cette chanson-là, ces femmes qui côtoyaient la haine, je trouvais que ça faisait vraiment un lien entre les sorcières, les femmes souveraines et la haine, les ogres qui peuvent parfois dévorer les sorcières. Voilà, donc comme on parlait de l'encyclopédie de Marie, je trouvais que c'était vraiment approprié. Bon, j'aurais pu mettre aussi Anne Sylvestre et ses sorcières.
Oui, mais on a déjà écouté Anne Sylvestre, même avec toi, voilà. Je crois, dans cette émission, il y a plein d'années.
Oui, j'imagine.
Alors,
Voilà, donc,
l'Encyclopédie du Merveilleux, justement, c'est une collection chez Albin Michel Jeunesse qui est dirigée par Benjamin Lacombe. Et c'est une collection de très, très beaux livres. Ils sont très beaux, très joliment manufacturés. Tu as publié Les sorcières, mais aussi Les dragons et très récemment Les ogres et ogresses.
Oui.
On va s'intéresser notamment aux sorcières. C'est une collection déjà qui mêle fiction et documentaire, c'est bien ça?
Oui, alors c'est vraiment la collection de Benjamin Lacombe. J'ai travaillé avec lui il y a 15 ou 20 ans bientôt, enfin il y a très longtemps sur L'Enfant Silence. Et quelques temps après, il avait sorti un livre sur les sorcières avec Sébastien Pérez. Mmh. Et j'avais dit, oh là là, moi ça c'est un thème vraiment, qu'est-ce que j'aurais aimé le faire et tout. Et il a pensé à moi donc 15 ans après. quand il a eu l'opportunité de refaire un livre sur les sorcières. Alors, c'est vrai que la collection est vraiment, comment dire, il y met un soin fou, tout est réfléchi, tout est beau, tout est délicat. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de soins apportés au livre, à l'objet livre déjà, et aussi au fond. Ce mix entre la fiction, on passe, déjà, il y a un personnage d'enfant dans chaque tome. Pour les sorcières, c'est Lana, une petite fille qui a une maison de poupée, et chaque pièce de sa maison de poupée ouvre un univers de sorcière.
Oui.
Et elle a une problématique, elle est aussi un peu différente, elle a une tache autour de l'œil, elle est un petit peu en rivalité avec un demi-frère, ça se passe pas très bien chez elle. Enfin bon, chaque fois il y a un enfant qui nous guide dans l'univers en question.
Et ça fait une porte d'entrée justement pour les lecteurs.
Oui, complètement, parce que c'est comme si voilà, c'est bien, suis-moi, je vais te montrer un peu l'univers des ogres, l'univers des dragons, celui des sorcières. Alors, on est deux auteurs à participer à la collection, Sébastien Pérez, j'ai écrit les ogres, les ogres et ogresses, les sorcières, les dragons. Lui a écrit les fées, les monstres et les fantômes.
Mmh.
Et chaque fois, et ça c'est vraiment l'univers de Benjamin, Benjamin choisit un illustrateur différent pour chaque tome. Donc il a ouvert la collection avec les sorcières et les a illustrés. Et ensuite on a eu pour les fées Bluebeardy, les dragons, j'ai travaillé avec Yvan Duc, qui a un univers aussi très très coloré, très, que j'aime beaucoup, très très rythmé. Les monstres sont illustrés par Stan Manoukian, un peu plus du côté de la bande dessinée. Les ogres et ogresses, Étienne Frey, qui a fait aussi un magnifique travail. J'ai adoré travailler avec lui. Les fantômes, Isabella Mazzanti, qui est une illustratrice italienne. Donc, chaque fois, il y a un univers graphique différent et quand même le suivi entre auteurs. Pour l'anecdote avec Sébastien, on s'est aperçu lors des deux premiers tomes que nos enfants s'appelaient, moi elle s'appelle Lana et le sien c'est un changelin et il s'appelle Alan et c'est des anagrammes. Donc depuis on s'amuse à essayer de continuer ça, mais c'est très difficile,
d'accord.
du mal. Mais c'était vraiment un hasard total, mais ça nous a bien plu d'avoir aussi ce lien, comme ça, un écho entre nos personnages.
Ouais, d'accord. C'est une collection quand même, ça doit être assez difficile d'écrire là-dedans parce que ça a l'air très drivé. Donc il y a cette histoire de petit enfant qui nous embarque dans l'univers, ensuite il y a des portraits soit de sorcières, soit d'ogres, et il y a également des pages, alors ces portraits c'est comme des mini-nouvelles en plus. Donc,
ouais.
On peut parler du style, pour écrire une mini-nouvelle qui se tient sur une seule page, ça doit être quand même assez voilà, complexe. Et ensuite,
ouais.
Des pages plus documentaires sur les attributs des sorcières, leurs animaux totems, ou, etc., les répercussions, enfin voilà, plein
oui.
de choses.
Tout ce qui est lié à eux. Alors, au départ, moi, j'étais partie pour faire les sorcières. Enfin, c'était, voilà. Mais il s'est trouvé que bon, ça s'est très bien passé et que Benjamin nous a proposé de continuer avec Sébastien, ce qu'on a accepté. C'est un travail assez dingue, hein, c'est vrai, parce que alors notamment tout ce qui est documentaire, là pour tout vous dire, mon prochain, celui que je viens de finir mais qui sortira l'année prochaine, c'est les licornes.
Oh.
Je ne connais rien aux licornes et a priori, j'étais pas trop dans mon univers de base. Mais en fait, c'est fabuleux, c'est fascinant le monde des licornes. Ce dont je m'aperçois en travaillant comme ça, alors ce qui est dur, que tu as dit, c'est vrai, c'est le côté réduire une histoire. Chaque fois, on aurait envie de faire un album
oui.
sur chaque portrait, que ce soit les sorcières, les ogres, les ogresses ou les dragons. Mais bon, voilà, c'est pas le lieu. C'est pas Au départ, ce n'était pas formaté, c'est-à-dire le format est né de notre travail sur la les premiers tomes.
Et maintenant, il faut faire pareil.
Voilà, maintenant, on les garde, effectivement, au niveau un peu pour qu'il y ait une cohérence quand même dans la collection. Après, si vraiment, par exemple, dans Les Sorcières, j'avais deux pages en plus, parce qu'il y a la chasse aux sorcières qui prenait vraiment... ça se voit pas trop parce que Benjamin a un peu triché en mettant une double picturale muette et voilà, mais j'ai quatre pages en plus que oui. Les autres. Alors il y a quand même, on a des ouvertures, bien sûr, c'est toujours très très ouvert. Et donc ce dont je m'aperçois, notamment avec les licornes, c'est quand même fou, c'est de quand on aborde ces thèmes du merveilleux. On aborde l'humanité, c'est-à-dire qu'on s'amuse aussi à trouver des licornes ou des ogres, des ogresses, des sorcières et des fées ou des monstres sur la terre entière. Alors c'était assez marrant parce que par exemple les dragons, il y en a vraiment partout. Ils sont au début du monde, dans toutes les cultures, sauf chez les Inuits. Alors si quelqu'un connaît un dragon Inuit, j'aimerais bien parce que j'en ai pas trouvé, ça m'a agacée. Alors que des ogres aux graisses, ça il y en a partout. Enfin, c'est assez marrant de voir comment en fait on est une seule humanité. Et de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver un peu lié comme ça par des histoires, que ce soit des histoires de création du monde, que ce soit des histoires sur la peur, les peurs intimes, les peurs intérieures. Enfin, c'est puisque évidemment ça résonne tout ça en psychologie, en psychanalyse. Ça
on porte tous
psyché,
les mêmes mythes quelque part. Ouais.
Ouais. Et ça, c'est passionnant. Donc voilà.
Donc c'est quand même énormément de recherches que tu as dû faire pour ces livres, j'imagine.
Ouais, honnêtement, je travaille bien sur 6 mois sur chaque tome.
Peut-être que pour les sorcières, tu avais déjà plus de connaissances de base.
Oui, mais alors du coup, j'ai recreusé tout ça parce que il fallait le réactualiser.
Et après, de nombreuses connaissances que tu as dû condenser de manière assez courte pour que ce soit déjà accessible à un public enfantin et condenser dans un livre.
Oui, alors c'est ça, c'est qu'il faut qu'on s'adresse quand même à des enfants à partir de 8-9 ans. Il faut que chacun y trouve son compte parce que c'est lu aussi par des beaucoup plus âgés, bien sûr. En fait, c'est un ton que j'aime bien essayer de chercher. Là, par exemple, sur les licornes, on s'est interrogé sur est-ce que c'était... Il y a par exemple plein de portraits de licornes à la Renaissance. Est-ce qu'on mettait toutes les références ou pas? Voilà, il ne faut pas noyer non plus le lecteur ou la lectrice sous des choses qui le dépassent un peu. Ce que j'ai envie de faire, ce que j'essaye de faire, et j'espère qu'on y arrive, que ce soit Sébastien ou moi, c'est de donner aux gens, aux lecteurs et aux lectrices, envie de chercher plus loin, de creuser le thème après. Voilà, dans le livre, quand on le ferme, on en ouvre d'autres, enfin, j'espère, parce que c'est toujours des univers tellement vastes qu'on peut vraiment trouver ailleurs.
Et donc, concernant les licornes, elles sont bien montées sur l'Arche de Noé?
Ça dépend. Alors, ça dépend. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Mais ce qui est marrant par rapport aux licornes, je ne devrais pas parler des licornes parce que c'est les ogres, la nouveauté, mais c'est de savoir qu'elles sont nées en fait, que ce mythe est né de moi j'appelle ça une soirée à la taverne, mais c'est pas vrai, c'était un Ctésias, un médecin grec qui vivait en Perse, et au 5e siècle avant Jésus-Christ, s'est retrouvé à rencontrer des voyageurs qui revenaient d'Inde, et qui lui ont raconté qu'ils avaient vu un âne qui avait une corne sur le front, et cette corne soignait tout, etc., etc. Il a noté tout ce que lui ont raconté ces voyageurs. Alors aussi bien, je me suis dit en rigolant, je me suis dit peut-être qu'ils nous racontaient n'importe quoi, ils se sont fichus de lui. Mais à partir de ces écrits de Ctésias, qui ont été repris tout au long de l'Antiquité, et puis plus tard au Moyen-Âge, etc., eh ben, on a une déferlante de licornes. C'est quand même... Et partout, c'est extraordinaire. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça... On est dans les réseaux sociaux avec les rumeurs, c'est hyper moderne en fait. Et on est un peu loin des arcs-en-ciel et des paillettes, mais maintenant les enfants connaissent que ça là.
C'est pour les licornes dans l'encyclopédie du merveilleux, mais on n'en parle pas encore, ça sortira dans plusieurs mois. Là, effectivement, l'actualité, c'est les ogres. Juste pour terminer cette interview, un petit mot pour présenter cet album-là qu'on a moins évoqué.
Oui, alors les ogres et les ogresses, on suit un personnage qui est une fille réussie, comme on dit. C'est Siam qui se construit une cabane au fond de son jardin parce qu'elle vit avec un papa qui a des soucis de chômage, de misère, et qui parfois crie crie très fort et voilà, elle n'est pas très, très à l'aise avec, avec tout ça. Donc elle va se faire une bulle de protection dans, dans sa cabane, dans, au fond du jardin. Elle se protège contre les ogres. Et à partir de là, on découvre donc 8 portraits d'ogres, Chronos, l'ogre de Jacques et le haricot magique, évidemment le petit poucet, etc. Et on passe sur les ogres du monde entier, de tous les temps, avec toujours cette chose très terrifiante de, ben, qui est très liée à la famine, hein, au niveau de la construction de, du personnage de l'ogre, et liée aussi à nos angoisses intimes, personnelles et profondes. Et en même temps, un côté très marrant, d'abord par le style des illustrations d'Étienne Friès, qui arrivent à rendre joyeux ce, cet univers, et que l'ogre est fondamentalement bêta aussi, donc ce qui le rend parfois un peu sympa, et jusqu'à arriver à des personnages comme Shrek, bien sûr. Et, voilà. Donc on est à la fois loin des sorcières, parce que là c'est beaucoup plus joyeux, je dirais, mais tout comme les sorcières, c'est les ogres sont bannis au fond de la forêt, comme les dragons. Enfin, c'est marrant, c'est quand même des personnages isolés, souvent, solitaires. Donc on les adopte, on les prend avec nous.
Bien, merci beaucoup Cécile Rumiguière pour cette petite présentation de tes livres dans l'Encyclopédie du Merveilleux, une collection chez Albin Michel Jeunesse.
Eh bien, merci à toi.
Avec plaisir, et du coup, on se verra aux prochains éclats de lire au mois de mai au Vigan.
Oui.
À bientôt,
avec
au revoir.
Gaïa. Ok, merci. Au revoir.
Au revoir.
Les éclats de lire, une émission de radio. De lire. Le troisième mercredi du mois à 15h30, rediffusé le dimanche qui suit à 11h. Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 16 et 17 mai au Vigan.